19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque soir ici même dans Les Informés. Merci d'être avec nous, vous le savez, alors au menu, vous savez, Les Informés, c'est analyser, commenter et décrypter l'actualité. Au menu, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, beaucoup de choses, pas mal de choses au menu jusqu'à 20h. D'abord, on va commencer par Maître Divisio, Divisio qui sera avec nous tout à l'heure pour son billet d'humeur évidemment consacré à l'actualité, vous le savez. Ensuite, après, autre billet d'humeur, le Quoi de Neuf, avec notamment celui de Dr Majid Soussine. Ensuite, nous retrouverons un réalisateur cinéaste qui sera avec nous, qui nous vient d'Algérie. Il s'appelle Yazid Arab, et vous le connaissez, il est intervenu régulièrement ici même d'ailleurs durant le Hirak et puis à plusieurs reprises. Et bien il est avec nous en direct, ça nous fait plaisir. Ensuite, autre invité, c'est celui qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Emprise, L'Emprise aux éditions Le Seuil. Il parle de Macron, il s'appelle Mark Underwald. Il sera avec nous tout à l'heure. Et puis, nous irons parler d'un événement direction Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, où nous recevrons Abdelaziz Al-Jawari qui sera avec nous tout à l'heure, le président d'une association qui nous fera part de son premier événement de la première édition. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, Les Informés, avec Adil Farkan.
C'est parti, vous le savez, ici même, dans Les Informés, l'invité du jour, c'est parti.
Les Informés, l'interview.
L'interview, c'est avec Yazid Arab, qui est cinéaste, réalisateur. Il nous vient en direct, tout direct d'Algérie. Bonsoir Yazid Arab.
Bonsoir Adil.
Bien dans le micro. Hein.
Bonsoir Adil.
Comment
merci
ça
pour
va
l'invitation.
Bah,
ça
écoute,
va,
avec plaisir. Moi, bon, vous savez que ça me fait plaisir de vous voir ici en live, en direct, alors que j'ai l'habitude de vous avoir en insert téléphonique,
oui,
régulièrement, depuis Alger, depuis la Kabylie. Comment vous vous portez?
Bah, écoute, ça va. Comme tu le sais, c'est un peu compliqué de venir en ce moment en France,
oui,
avec voilà, tout ce qui se passe, la pandémie et tout. Les passes.
Les passes. J'aime voilà, pas mal ça.
Ouais.
Vous êtes de passage en France pour quelques jours. Comment vous vivez l'ambiance qu'il y a en France, évidemment, en dehors du pass? Vous voyez bien, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. On parle beaucoup de crise, on parle de passe, on parle... Comment vous vivez l'ambiance en ce moment politique à Paris?
Je pense qu'il y a quand même un climat délétère. On sent que les gens sont stressés. On ne sourit pas beaucoup.
Voilà. Ça, c'est vrai, je vous le confirme.
Même si on ne le voit pas, il y a toujours des masques, des bavettes. Voilà.
Oui. Yazid Arab, vous êtes cinéaste, vous êtes réalisateur notamment, vous avez participé à plusieurs masters, classes justement. Et vous êtes aussi scénariste, vous avez évidemment réalisé pas mal d'œuvres. D'abord, première question, avant de parler de vous. Vous êtes diplômé, il me semble, de l'école québécoise, hein, de,
oui,
cinéma.
Québécoise de cinéma. Oui, québécoise
de cinéma.
Absolument.
Ouais. Vous avez en cours aujourd'hui écrit d'ailleurs plusieurs, vous avez participé à plusieurs festivals.
Oui.
Yazid Arab, d'abord, première question. En Algérie, aujourd'hui, où en est-on? Que reste-t-il finalement du Hirak quelques années après?
Écoutez, on a parlé beaucoup du Hirak béni, hein, on a parlé beaucoup de ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu la Covid, donc les gens ne sortent plus comme avant, tous les mardis pour les étudiants, les vendredis pour la population. Mais le Hirak aujourd'hui, c'est devenu un état d'esprit.
Un état d'esprit.
Voilà.
Ça veut dire quoi un état d'esprit?
Ça veut dire quoi que aujourd'hui les revendications elles sont claires. C'est-à-dire chaque Algérien sait maintenant, en fait, sait maintenant ce qu'il veut. Il y a une conscience collective. Voilà. Aujourd'hui, on a vu le Hirak, et en fait, on a marché un peu partout, de la Kabylie, de Annaba, de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Donc, c'est une conscience nationale.
Nationale, effectivement,
voilà.
Une conscience.
Nationale.
Donc, ça veut dire que c'est dans les esprits des habitants, des Algériens. Hein, comment dois-je aujourd'hui considérer ce que vous êtes en train de me dire, parce que c'est très important. Est-ce que c'est dans les consciences?
Je pense que oui, mais c'est plus oui, c'est dans les consciences. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le seul vraiment parti d'opposition en Algérie, c'est la rue.
C'est la rue. C'est
ouais,
devenu la rue.
Ah, ouais.
C'est le seul opposant.
C'est le seul opposant parce qu'il y a eu des partis pour politiques. Je dis pas qu'il n'y a pas eu du militantisme. C'est vrai qu'on a dit, il y a aussi une société civile, il y a des associations de femmes, de jeunes, et il y a eu toujours ce mouvement. Malheureusement, il n'a pas pu aboutir. Ou en fait, oui, c'est comme des feux de brindilles. Aujourd'hui, je pense que le Hirak, c'est ce grand feu qui a pris. Voilà.
Qui a pris.
Voilà.
Yazid Arab, cinéaste, monsieur le réalisateur, le Hirak, ça fait 2 ans, il me semble. 2 ans déjà.
C'est ça. 3 ans.
3 ans maintenant.
Ouais, c'est un an.
2 ans. Que... 2 ans. Ah bon, il me semblait que c'était 3 ans.
Ouais, on a eu.
On rentre dans la 3e année, il me semble. Hein.
Je pense qu'on rentre dans la 3e année.
Ah voilà, il me semblait.
On rentre dans la 3e année. Parce que c'est l'anniversaire dans quelques jours, c'est le 22 février.
Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on peut considérer que le Hirak, c'est fini? On n'en parlera plus jamais et qu'on ne le retrouvera plus du tout dans la rue.
Ah non, ah non. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le Hirak, j'ai dit, c'est pas un parti politique qui est appelé pour aller marcher ou il y a une grève de syndicats. Non, non, c'est le peuple qui, un jour, il a décidé de sortir et de dire non à un 5e mandat, non à un système sclérosé depuis 62. Voilà ce que je peux dire, sans oublier que le Hirak, il n'y a jamais eu un mouvement aussi important depuis l'indépendance de l'Algérie, si on ne le dit pas assez.
On ne le dit pas assez, ouais. Mais c'est très important ce que vous êtes en train de me dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré tout, même si le Hirak, évidemment, vous dites que... je note que c'est dans les esprits des Algériens, que c'est dans les consciences transgénérationnelles, auprès de tout le monde, jeunes, vieux, toute la population l'habite, ce Hirak.
On l'a appelé même la révolution du sourire. Pourquoi? Parce qu'un sourire, un enfant peut l'avoir, un vieux, un jeune, des femmes. On a vu même un certain temps des pièces de théâtre comme ça, dans la rue, de la danse. En fait, il y a eu vraiment un mouvement, mais un mouvement pour le changement. Il y a eu un mouvement en fait, qui a refusé la violence. Il n'y a pas eu un blessé. Vous imaginez, c'est quoi le Hirak? Il y a eu, on parle de 20 millions de gens qui ont marché sur la journée.
Oui, 20 millions.
20 millions.
Écoutez, c'est pas mal, effectivement. Ah. Je vois que... Donc, on est aujourd'hui, les Algériens continuent de se mobiliser. Sous quelle forme, finalement, Yazid Arab?
Sous quelle forme, en fait, moi je viens d'un domaine, donc c'est le cinéma, donc c'est la culture.
Donc
aujourd'hui, il y a des journalistes, il y a des centres de théâtre, des dramaturges, des cinéastes, des écrivains qui sont en train d'écrire des livres, de dire aussi que, voilà, le Hirak, c'est quelque chose aussi à vulgariser, parce que c'est un mouvement qui a donné naissance quand même à une conscience, on l'a dit, nationale. Et surtout, c'est un vent de liberté.
Un vent de liberté.
Ouais.
Qu'est-ce que vous dites aux franco-algériens qui sont ici en France? Vous leur dites quoi comme message? Ceux qui ont soutenu le Hirak.
Il faut toujours le soutenir. Et dire que, parce que c'est vrai qu'on parle, on est un peu des défaitistes, on est dès qu'un mouvement, que ce soit de libération, si je donne même l'exemple de la guerre d'Algérie, en fait c'est un siècle et 32 ans.
Oui.
Le Hirak, on parle, il rentre dans la 3e année, donc c'est vrai qu'il y a eu il y a eu le Covid, il y a eu ce qu'il y a eu aussi, il y a eu un changement à la tête de l'État. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont nous dire qu'il n'y a plus de... en fait, le Hirak n'existe plus. N'existe plus, mais que, comme je l'ai dit, le Hirak, aujourd'hui, il est présent dans tout l'esprit des Algériens.
Il est présent. Dites-moi, Yazid Arab, on va parler de vos œuvres, évidemment. Vous êtes réalisateur, cinéaste, scénariste. Vous avez participé, évidemment, à partir de plusieurs documentaires qui sont inscrits, évidemment, dans le... Parce que vous avez une particularité, Yazid Arab, il faut le dire à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes donc de Tizi Ouzou.
Oui. De Tizi Rached, exactement.
Tizi Rached, exactement.
Ouais.
Une série de documentaires que vous avez inscrits, évidemment. À chaque fois, ils ont une note particulière, ces documentaires. À chaque fois, vous essayez de leur donner, comment dirais-je, une orientation sociétale. Pour quelle raison?
J'essaie de faire des films utiles. Hein, toujours il y aura un débat moral, un message du film. Et deux, j'essaie de travailler sur mon vécu. En fait, je vis en Kabylie. Donc j'ai toujours fait des films qui parlent de de ma région. Ça ne veut pas dire que j'ai pas fait des films à Alger ou ailleurs. Hein.
Oui, oui, oui.
Voilà. Mais si aujourd'hui on pose des questions, pourquoi j'ai fait des films en fait sur cette région ou sur la population de cette région, c'est juste dire qu'un film, c'est d'abord son vécu. Voilà, c'est de parler de.
Vous voulez laisser une trace. C'est de laisser
une trace. Et comme on le sait, le cinéma, c'est la mémoire.
C'est la mémoire, vous avez raison, c'est vrai. Voilà, c'est la mémoire aussi.
Voilà, c'est la
vous avez été primé hein, à plusieurs reprises d'ailleurs.
Oui, j'ai eu un prix au Festival Amazir. J'ai eu des sélections comme ça un peu partout, ouais, dans des festivals, que ce soit à Montréal, que ce soit à Genève.
Vos documentaires, il y en a un d'ailleurs qui a été diffusé aussi, y compris sur Arte.
Arte, en fait, j'ai travaillé sur Arte avec Bruno Le Maire, qui a été diffusé sur Arte. J'ai travaillé aussi sur le film avec Hervé Bourges et Jérôme Sesquin.
Diffusé sur France 5 et TV5.
Voilà, l'Algérie à l'épreuve du pouvoir. J'ai travaillé aussi avec Stéphanie Svaletéo sur les Fantassins de la démocratie, film qui est passé en salle, qui est parti aussi à Cannes non officiel, bah, etc.
Donc pas mal, évidemment, pas mal d'œuvres vous concernant. Aujourd'hui, vous êtes en France. Est-ce que vous avez envie de produire un film, de réaliser un film? Et sous quelle forme, d'ailleurs, Yazid Arab?
Là, en ce moment, on vient de lancer un premier tour de manivelle. C'est un biopic qui s'appelle sur Ali Lemesh. Ali Lemesh, c'est un militant nationaliste qui est le formateur, hein, qui a formé Hossein Etamed, Omar El-Sidik, les Beaux-Arts, etc. Donc, c'est un oublié de l'histoire. En fait, on ne
trouve pas.
Ouais,
oui.
Voilà. Donc, en ce moment, j'essaye de faire un film sur ce. Sur Ali Lemesh.
Un film documentaire.
Un film de documentaire. Pourquoi Ali Lemesh? Parce que, comme disait. Gramsci, et que pour d'abord être un homme politique, il faut d'abord être un homme de culture. Il faut d'abord être un homme de culture pour être un homme pour politique.
Ali Lemesh qui a vu le jour en 1925, hein.
Oui, en 1925. Il est mort jeune, en 46.
Il est mort jeune.
6 août qu'à 46.
Ouais, il n'avait que 17 ans.
Il n'avait que 17 ans, ouais.
On connaît, hein?
Non, il n'avait que 21 ans, je crois.
21 ans? Ah bah, je me suis trompé.
Voilà.
21 ans. Ouais. On revient dans une petite minute.
Oui.
On lance la pub.
Plaisir. Oui, oui.
Allez, à tout de suite. On lance la pub. On se retrouve juste après, ici même dans Les Informés, avec notre cinéaste qui nous vient d'Algérie, le réalisateur, cinéaste, scénariste Yazid Arab. À tout de suite.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Les informés, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, c'est avec Yazid Arab, notre invité, et tout à l'heure, nous recevrons aussi d'autres invités. Le dernier film, donc le dernier projet, film documentaire sur Lemesh, donc Ali, c'est bien ça?
Oui, oui.
Un projet qui est en cours. Lemesh Ali, qui est en réalité un personnage, hein?
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'il a? Qui est-il, ce monsieur?
Bah, ce monsieur, c'est un homme de culture, comme je l'ai dit. Je ne sais pas, on a déjà entendu des chants comme Kiramisu Mazir. Rory Noumdakour qui dira chanter, que tous les...
Il a été dans la lutte politique. Hein.
Ah oui, en 1942, il a commencé à adhérer au PPA.
Je crois savoir, Yazid Arab, que c'était votre rêve de réaliser un film documentaire sur lui.
Oui, c'est un rêve. Pourquoi? Parce qu'Ali Lemesh, moi je les connais tout petit. Je viens de sa région.
D'accord, la même région.
La même région, on est de la même région. Et moi, quand j'ai rencontré Hossein Et Ahmed une fois... Quand j'ai dit que je venais de Tizi Rached, il n'arrêtait pas de me parler d'Ali Lemesh.
Il est un révolutionnaire.
Oui, Ali Lemesh, l'homme de culture, parce que ce film, on a choisi une tranche de vie de l'homme de culture. Après, c'est son passé antérieur qui va venir alimenter le récit. Voilà.
Voilà
à peu près comment le film est construit.
Donc, en gros, ce révolutionnaire, vous voulez consacrer un film documentaire. C'est un héros national, finalement.
Ali Lemesh. Dans tous les révolutionnaires algériens, ils parleront d'Ali Lemesh. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a utilisé non seulement en fait la lutte armée, mais c'est un homme qui a utilisé la culture pour libérer le pays. C'est-à-dire, je m'explique. Il a écrit des pièces de théâtre. Il a joué à Emiliana. Et c'est, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient de Kabylie, mais il était à Ben Aknoun, à Alger, à Emiliana. Il a fait du, voilà, il a écrit des chants. Aujourd'hui, j'ai même deux amis, ils ont consacré un livre à Lila Emesh. Voilà, ils ont tout retracé. Ils ont retracé sa vie. Et c'est, voilà, tout ce qu'il a fait, on retrouve ses chants et tout. Voilà.
Dites-moi, Yazid Arab, ce film documentaire, on va le retrouver quand précisément?
Un film documentaire, ce que je dis, parce qu'un film documentaire, c'est pas comme une fiction, ça demande du temps. Ça, pourquoi? Parce qu'on écrit avant de tourner, pendant le tournage et pendant le montage. Et à Lila Emesh, il nous faut beaucoup d'archives. Et ces archives, il faut aller les chercher. Voilà. Mais on fera aussi un travail sur les lieux. Parce qu'un lieu, quand on fait un documentaire, peut devenir aussi un personnage. Donc on va travailler sur les lieux, sur ses compagnons et les archives. Donc voilà. Espérons dans un an et demi.
Bon courage. Hein.
Merci beaucoup.
Eh bien, un film documentaire à ne pas manquer, effectivement, on vous tiendra au courant, ici même dans Les Informés. Lila Emesh Alik, donc un personnage, un révolutionnaire, c'est un film documentaire qui sera réalisé par Yazid Arab, réalisateur, scénariste, mais également aussi donc documentaliste. Merci Yazid Arab, vous reviendrez ici?
Juste une parenthèse, le film a été écrit par un journaliste algérien, il s'appelle Chris Patradine. Voilà,
je suis le réalisateur. Merci pour la précision.
Voilà, je suis le réalisateur, mais pas le scénariste.
Chacun son domaine.
Exactement.
Voilà. Merci à vous. Bon retour. Merci. Bon retour en Algérie.
Merci et merci encore pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Merci à vous. Tout de suite, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, comme chaque mercredi, c'est avec, eh bien, Maître Fabrice Divisio. Bonsoir, mon cher maître. Maître Divisio, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Alors, ce soir, je suis un peu grave et amer, je vous le préviens.
Dites-nous tout. Pour quelle raison?
Alors, mon cher Adil, ça va s'arrêter quand?
Ouais, ça c'est une vraie question.
Ça va s'arrêter quand?
Je vous renvoie la question. Franchement, si j'avais la réponse, vous l'aurais livrée avec grand plaisir.
Parce qu'il va bien falloir que ça s'arrête.
Ah bah ça, un jour, oui.
Il va bien falloir que le cynisme érigé en mode de gouvernement, la provocation aux règles de vie publique cesse. J'ai compris qu'Emmanuel Macron emmerdait les non-vaccinés, mais à ce rythme, c'est toute la France qui est en train d'emmerder. Et il est en train de rompre le socle. Il est en train de rompre le socle de la confiance nécessaire à l'état de droit. Lorsque celui-ci entend nommer Jacqueline Moreau au Conseil constitutionnel, alors que sa compétence en droit constitutionnel est à peu près équivalente à la connaissance de la reproduction des fourmis rouges d'Amazonie, que faut-il en déduire? Quand Richard Ferrand entend nommer la juge qui lui a évité quelques ennuis judiciaires, alors que cette dernière a fait du droit constitutionnel en première année de fac, c'est-à-dire il y a à peu près un siècle et demi, que faut-il en déduire? Après avoir déployé les blindés sur les Champs-Élysées, usant de la provocation comme arme de communication, oui, le gouvernement clairement crache à la figure des apparences qui ici ne sont pas trompeuses. Oui. La République aura le dernier mot, a-t-on coutume de dire, pour tout et n'importe quoi. Mais on oublie de rajouter « bananière », car de fait, notre République s'est transformée en République bananière. Une République dans laquelle l'égalité n'a plus droit de cité, où il fait bon emmerder les Français, où il est d'usage de provoquer en riant à gorge déployée des absences de réaction. Une république dans laquelle la presse est toujours à l'affût du vent de la majorité pour savoir de quel côté pencher. Une république dans laquelle le gouvernement donne des instructions aux réseaux sociaux qui obéissent, car il ne faudrait pas froisser le très républicain prince, dont on voit avec la nomination au Conseil constitutionnel ou encore avec le recours au cabinet McKinsey, qu'il sait se montrer généreux avec ses amis, mais terrible avec ses ennemis, certains en ont fait les frais. Une république dans laquelle l'opposition ne s'oppose pas de peur d'exister, manquerait plus que ça, tiens.
Ça, c'est sûr.
Alors, mon cher Adil, ce soir, j'ai mal. Mal à ma démocratie, mal à mon pays, et j'aurais aimé vous dire que ça va passer, mais je crois qu'hélas, la douleur va perdurer car la blessure est profonde. J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'il suffira de changer de gouvernement, mais je crois, hélas, que la crise que nous traversons est bien une crise de civilisation, et il faut se préparer à des jours bien difficiles. Je vous avais prévenu, je suis grave et amer, oui, mais pour ne pas sombrer dans la dépression, je vais de ce pas me repasser un bout du meeting de Valérie Pécresse. Une comédie me fera le plus grand bien.
Ah, vous êtes... Franchement, vous êtes terrible, Maître Divisio, quand même. Hein. Mais quand je vous écoute parler avec ce billet d'humeur, là, en fait, quelle est cette note d'espoir, mon cher ami ?
Notre espérance, cher ami, est en Dieu et en Dieu seul.
Ah, merci pour ce billet d'humeur, mon cher Maître Fabrice Divisio. À la semaine prochaine, sans faute ?
Ça marche.
À très bientôt. Prochaine. Le Quoi de Neuf, c'était le Quoi de Neuf de Maître Fabrice Divisio.
Les informés, l'interview. L'interview.
Allez, l'interview, vous le savez, c'est avec un ouvrage qui a été douloureux pour moi, parce que c'est un pavé, compliqué, parce qu'évidemment, il faut suivre la géopolitique. Il s'appelle L'Emprise, c'est aux auditions Le Seuil, et c'est avec Marc Underwald. Bonsoir Marc Underwald.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va bien, et vous ?
Vous êtes vous êtes journaliste. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle L'Emprise aux éditions Le Seuil. Pour quelle raison vous avez voulu nous plonger dans une France-Afrique ?
Ah, alors, j'évoque effectivement la France-Afrique dans le livre.
Ah, vous évoquez tout, Maghreb, tout le monde a droit à son grade, là.
Ah, tout à fait. Le point de départ de l'enquête, parce que c'est une enquête, c'est un livre.
C'est une belle enquête.
Le point de départ, c'est je m'interroge à la fois sur la place de la France aujourd'hui dans le monde, notamment après bientôt un quinquennat fini d'Emmanuel Macron.
Oui.
Même si je parle également de ses prédécesseurs de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, je m'intéresse au dossier diplomatique, mais également aux enjeux industriels et stratégiques. Et l'autre point de départ du livre, c'est la question de où peut se situer la France dans la guerre froide, entre guillemets, en cours entre les États-Unis et la Chine. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse à différents terrains, on va dire régionaux, bien évidemment, et notamment les relations, il y a tout un chapitre sur les relations entre la France et l'Algérie, sujet que j'avais déjà abordé dans mon précédent livre sur les réseaux d'Emmanuel Macron et la manière dont il avait accédé au pouvoir en 2017.
Exact. Alors, j'aimerais vous poser cette première question, Marc Underwald, justement, concernant votre ouvrage. Alors, moi, je l'ai lu attentivement, mais il faut suivre quand même, hein. Il faut suivre. Je donne le nom, il faut le dire à nos auditeurs. C'est un beau pavé, extrêmement intéressant, très belle enquête. Bravo, mon cher Marc. D'abord, c'est vrai, quelque chose qui m'a interpellé, c'est vous démarrez avec le Quai d'Orsay. Vous démarrez avec cette diplomatie où vous dites, moi, ça m'a beaucoup plu. Et c'est tellement vrai. Les diplomates français sont perdus, tout va trop vite pour eux. Vous dites que la fureur des réseaux sociaux est présente, les alertes des infos en continu. Ma question est très simple, est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie française a perdu du terrain et au détriment de qui ?
Ah bah, c'est un constat d'évidence. La diplomatie française a perdu du terrain partout. Le Quai d'Orsay est dans une situation, on va dire, quasiment de crise existentielle, parce que finalement, à la fois les présidents de la République successifs ont de plus en plus concentré le pouvoir diplomatique à l'Élysée. Ça, on va dire, c'est aussi une tendance longue sous la Ve République. Mais il y a également ce que je décris, une militarisation, on va dire, des rapports diplomatiques, un rôle croissant des services secrets, au nom de la guerre contre le terrorisme, souvent, et donc le rôle du diplomate, c'est-à-dire celui de faire médiation entre les États, d'être dans la parole, dans la temporisation, d'être dans la recherche de la paix, c'est de plus en plus, ce rôle s'est affaibli. Et il y a un problème, plus particulièrement pour le Quai d'Orsay, c'est que depuis très longtemps, ils se sont, inscrits dans la logique d'une France qui avait encore et qui devait encore avoir son rang et son mot à dire à l'international. C'est le rêve du gaullisme, finalement, du retour d'une grandeur de la France. En tout cas, c'est le projet du général de Gaulle à l'époque. Et ce que je montre depuis notamment une vingtaine d'années, c'est que le référentiel, notamment au Quai d'Orsay, mais également auprès des différents présidents de la République, notamment sous Nicolas Sarkozy, a été de plus en plus sur un alignement d'une partie de la diplomatie française sur, en partie, les États-Unis. Et ça, c'est le fait aussi qu'on est sorti du monde, là, pour le coup, de la Première Guerre froide et que la France, depuis...
Est-ce qu'aujourd'hui,
la France... Ouais.
Marc Andoel, justement, est-ce que la France aujourd'hui manque cruellement de moyens, évidemment, pour, comment dirais-je, être face justement à cette menace dont vous nous, que vous nous esquissez ici à l'antenne, mais surtout, surtout, est-ce qu'elle manque de moyens aujourd'hui face à, aux Russes, face aux États-Unis, face à, évidemment, à toute cette diplomatie, y compris la Chine?
Voilà, alors ça, c'est tout l'aspect description de la guerre économique entre puissances, où j'explique comment la France s'est désarmée ces dernières années, tant d'un point de vue d'influence, d'un point de vue du renseignement, mais également d'un point de vue industriel, bien évidemment. Donc, je reviens sur la désindustrialisation du pays au bénéfice de la Chine, de l'atelier du monde qui est devenu la Chine. Mais également, je reviens sur plein d'épisodes où notre allié américain ne prend pas de pincettes, y compris à l'égard de leurs alliés, pour mener une guerre économique de l'ombre. Et donc, il y a différents épisodes. Je parle d'Alstom, mais je parle également d'Airbus. Et je conclue souvent ces épisodes-là en disant, dans ce monde de la globalisation néolibérale, tous les coups sont permis et il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des concurrents.
Marc, on revient juste après la pause pub. Évidemment, notre réalisateur me pousse à marquer la pause. Marc Andoel, restez avec moi. On se retrouve tout de suite après, justement, pour continuer de parler de votre ouvrage, L'Emprise aux éditions Le Seuil. Seuil, pardon.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Si vous venez de nous retrouver, dernière ligne droite, justement, ici même, dans Les informer, c'est de 19h à 20h, avec cet ouvrage, L'Emprise, cet excellent ouvrage, L'Emprise, aux éditions Seuil, Marc Andoel, justement, qui est avec nous. Il y a un passage aussi qui retient mon attention. Vous dites, quand vous parlez d'Alger, vous dites, comme souvent, Emmanuel Macron, en diplomatie, il a tendance à mélanger les gens entre politique et business. Pourquoi vous faites cette allusion?
Je reviens longuement sur le voyage, effectivement, pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en février 2017. Alors, on se souvient de ces fortes déclarations sur les crimes contre l'humanité de la France à l'égard de l'Algérie, pour reprendre ces termes. Mais, en fait, à l'époque, dans les coulisses, quand il se déplace à Alger, il rencontre en priorité une bonne partie des acteurs économiques en Algérie, mais surtout la plupart des oligarques que tout le monde connaît aujourd'hui, notamment Ali Haddad, mais également Issa Drebrab et bien d'autres, et dont certains se sont retrouvés, on le sait maintenant aujourd'hui, c'est le cas pour Ali Haddad, en prison. Et donc, en fait, en privilégiant les réseaux économiques et d'influence, hein, comme un banquier d'affaires qu'il a été auparavant, eh bien, il se fragilise dès qu'il y a un changement, on va dire, démocratique, en tout cas de contestation, y compris vis-à-vis des oligarques, comme on a pu le voir en Algérie depuis 2019 et le Irak.
Est-ce que finalement la politique, la diplomatie et l'économie et le business font bon ménage, Marc?
Non, c'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est que c'est l'une des leçons de mon enquête, c'est que de plus en plus dans les relations internationales, malheureusement, et dans les rapports d'État à État, les intérêts proprement privés interviennent de plus en plus en interférence dans une sorte de mélange des genres au plus haut niveau des États. Et la France n'échappe pas à ça, avec en plus un entre-soi du capitalisme français qui est très particulier. Mais là, en plus, quand j'évoque certains épisodes dans mon livre, on parlait tout à l'heure, vous me parliez de la France, dans la France-Afrique, Emmanuel Macron, dans son ascension, a effectivement utilisé des vieux réseaux de la France-Afrique, mais bien qu'il s'en défende, et ça a pu aujourd'hui le fragiliser depuis le début de son quinquennat, y compris sur sa diplomatie africaine et différents pays.
Est-ce que vous avez quelques scoops comme ça? Vous pouvez nous citer, nous dire, dans les informés, mon cher Marc Andoel.
J'en ai plein de scoops. J'en ai plein dans le livre. Par exemple, un élément important, on parle de l'Afrique, là, par exemple. Un des grands scoops du livre, c'est que j'explique la guerre entre Bolloré, le groupe Bolloré et l'Élysée, qui a été largement chroniquée dans la presse politique française d'information générale. La raison profonde de cette guerre-là, est en fait le terrain africain et le fait que le groupe portuaire MSC, dont la famille propriétaire et dirigeante est de la famille du secrétaire général de l'Élysée, donc Alexis Kohler, principal collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Élysée, et que MSC s'est trouvé en concurrence avec le groupe Bolloré sur les activités africaines du groupe Bolloré, sur les ports et la logistique. Et on a vu à l'automne, là, l'épilogue, parce qu'en fin d'année, on a appris que MSC entrait en négociation exclusive pour acheter les activités africaines de Bolloré. Et donc, on peut se demander si, alors que précédemment, il y avait une guerre entre Bolloré et l'Élysée, aujourd'hui, on peut se demander s'il n'y a pas une période d'armistice entre un intérêt privé, qui est le groupe Bolloré, et l'Élysée, qui représente l'État français.
Il y a le rôle aussi clé de Rothschild, Marc Andewald. Et vous le rappelez d'ailleurs dans votre ouvrage.
Oui, tout à fait. C'est une vieille histoire pour moi parce que j'ai commis le premier livre sur Emmanuel Macron en 2015, quand il n'était que ministre de l'économie, l'ambigu Monsieur Macron, où j'évoquais son passage par la banque Rothschild. Mais effectivement, ce qui m'a étonné après enquête, c'est que Emmanuel Macron a pu recevoir l'aide parfois d'anciens banquiers de chez Rothschild, mais surtout d'une autre branche de la famille Rothschild, la fameuse compagnie financière de Rothschild qui est à Genève. Et par exemple, quelqu'un qui est à la fois entre la compagnie financière de Rothschild, Paris, et qui a des ascendances, on va dire, algériennes, d'Oran, qui vient d'Oran, je veux parler de Pierre de Nasberg, courtier d'assurance, lui a facilité les choses pour avoir un prêt bancaire pendant sa campagne présidentielle de 2017. Donc là encore, on est sur une forme d'entre-soi que je décris dans le livre, à un moment donné du livre et de l'ouvrage. Et ça peut expliquer ensuite quelques liens et quelques solidarités qui ont pu rendre plus difficile les relations entre la France et l'Algérie.
Alors justement, j'ai envie de dire à nos auditeurs, allez vous le procurer, ça s'appelle « L'Emprise », votre ouvrage, aux éditions Seuil. Marc Andewald, qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs qui vous écoutent partout en France ?
Je dis que s'informer demande un effort. Vous avez fait la remarque qu'effectivement mon ouvrage c'était un pavé. C'est vrai que ça fait plus de 500 pages, mais c'est un peu aussi un pavé dans la mare où j'évoque différents sujets stratégiques, de coulisses, des conciliabules de l'ombre, des personnages de l'ombre, et c'est important pour les électeurs d'être conscients de tous ces sujets avant le prochain scrutin.
Un ouvrage donc riche en révélations concernant évidemment la diplomatie. Vous nous parlez de Pegasus, de crise notamment, de principaux enjeux géopolitiques évidemment concernant cette guerre économique, les coulisses d'une guerre économique et cette guerre et cette nouvelle guerre froide. Hein. Merci Marc Andewald avec Sous l'emprise. C'est votre dernier ouvrage aux éditions Seuil. Allez vous le procurer. Très très bel ouvrage. Merci Marc.
Merci
et à très bientôt
vous,
sur notre
Merci.
Antenne. Tout de suite, le Quoi de neuf.
Les informés, le Quoi de neuf.
Comme chaque mercredi, vous le savez, c'est avec Dr Majid Seyoussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi à l'hôtel, aux Invalides, chez les militaires, et au SAMU. Mon cher Dr Majid Seyoussine, comment ça va ?
Bonsoir mon cher Adil.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous-même ?
Bon, écoutez, je vous ouvre la voie pour votre billet d'humeur, on vous écoute.
Eh bien écoutez mon cher Adil, je ne suis jamais pris pour Madame Irma, mais tout de même,
oui.
J'entrevois dans l'avenir un certain nombre de choses dont quelques-unes m'inquiètent. J'entrevois par exemple une invasion de l'Ukraine par l'ogre russe et je vois des larmes et du sang et des horreurs. L'ours Poutine, malgré le Botox et ses 70 ans, arrive encore et toujours à mordre. Et je rends hommage à votre sens de l'anticipation, Adil, vous qui venez d'ouvrir à Colombes un centre genré pour les réfugiés. EES, bien sûr, centre sur lequel vous m'avez demandé de garder une certaine forme de discrétion, et je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, je tiens à rendre hommage à votre haut sens de l'humanitaire totalement désintéressé. Il paraît d'ailleurs que vous avez refusé la proposition d'Anne Hidalgo d'y accueillir les craqueurs de la porte de la Villette, dont elle ne sait que faire et qu'il semblerait que vous préfériez les jeunes ukrainiennes, je ne sais pas pourquoi. Je vois un énorme pchit, celui de la candidature de Taubira, qui vient d'être lâché par le Parti radical de gauche, dont on est content d'apprendre qu'il existe toujours. pauvre Taubira qui, avec ses 47 parrainages, voit ses chances de concourir se réduire. Elle qui ne pourra pas rééditer le coup de 2002 qui avait valu à Jospin l'élimination au premier tour et l'accession de Le Pen père au second. Et oui, mon cher Adil, ça fait 20 ans déjà.
20 ans.
Pas beaucoup de renouvellement, me direz-vous. Mais si, mon cher Adil, il y a 20 ans, nous manifestions contre un candidat d'extrême droite, dont désormais on ne se nommait même plus qu'il y en ait trois. Dire qu'en 2002, nous avions voté comme un seul homme pour Chirac, en espérant se débarrasser à tout jamais de Le Pen. Et voilà qu'aujourd'hui, nous ne pourrions même pas voter pour sa descendante, Valérie Détresse, qui est tellement
Valérie Détresse. Clochette. Non mais oh, docteur. Qu'est-ce que vous faites?
Valérie Détresse. Il suffit d'avoir vu son meeting dimanche pour se rendre compte à quel point elle en est.
Oh punaise, mon Dieu.
Qui est tellement perdue qu'une Sachelle ne sait même plus quel corps habiter, qu'elle oublie presque qui elle est, invoquant le grand remplacement et un certain Renaud Camus, qui n'était connu jusque-là que des intellectuels d'extrême droite et des militants antiracistes bien informés. Elle m'est fait l'effet d'un de ces coucous qui cherchent un nid où s'installer, car ils sont incapables de faire le leur propre. Son grand meeting de cette semaine, qui devait être le grand lancement de sa campagne, a montré combien son programme tient plus de l'étude des trous noirs, qui, dit-on, aspireront un jour la galaxie, et semble-t-il ont déjà commencé à l'aspirer elle. À moins que je me sois trompé, comme tous les observateurs politiques, vous y compris, mon cher Adil.
C'est ça.
Valérie Pécresse est peut-être possédée. La bourgeoise de Versailles s'est fait mordre au cou par le vampire Z,
avec
sa cape noire et ses dents pointues.
Aïe.
Mais ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il ne lui a pas sucé que le sang. Visiblement, en même temps, il a aspiré son âme.
Vous êtes fou, mon chat docteur.
Eh oui, mon psychiatre est en vacances.
Bravo, merci pour ce billet d'humeur. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Comment vous observez cette ambiance politique?
Affreuse. Je regrette l'époque où il y avait une classe politique avec des vrais politiciens, des idées, des débats, des oppositions saines. Et puis, je me demande aujourd'hui si, heureusement qu'il y a 5, 7, 8, 9 millions de musulmans en France, parce que sinon, il n'y aurait pas de sujet de débat politique.
Absolument.
C'est ce que je me dis. Heureusement que les musulmans sont là. On peut les remercier.
Eh bien, merci, mon cher docteur Majid Soussine. Merci infiniment.
À votre service.
À la semaine prochaine, sans faute.
Sans faute, bien sûr.
Merci à vous. Allez, c'est la fin de l'émission. La fin, déjà, effectivement, désinformé. À la réalisation, c'était Giovanni. À demain, avec autant de plaisir. Mais vous le savez, tout de suite, vous allez retrouver dans une poignée de minutes Bilal Nedman avec Time Sport. 20h-21h. Merci à vous. À demain, avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.